Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez Marc-André Leclerc, Cube Radio. Cube Radio.
Allons rejoindre David Santa Rosa, titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie et également enseignant au secondaire. Bonjour David.
Bonjour Marc-André.
David, hier, il y a un sujet, là, c'est quand même l'actualité quand même assez débordante, même si on est au début du mois de juillet. On a vu une sortie dans la presse de Gabriel Nadeau-Dubois où il a quand même annoncé un virage là concernant la position Québec solidaire là sur les signes religieux.
Oui, en effet. Donc, normalement, Québec solidaire s'accordait avec le rapport Bouchard-Taylor, hein, donc qui disait que le port de signes religieux était interdit, aux juges et aux gardiens de prison, mais où les enseignants pouvaient le porter. Et maintenant, ils se rétractent, en fait, et tout le monde devrait pouvoir porter des signes religieux. Donc, s'ils sont élus, eux autres, ben, aux poubelles, la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, vraiment... Il souhaite que tout le monde puisse porter des signes religieux. Et là, j'ouvre les guillemets de Gabriel Nadeau-Dubois qui dit « On va permettre le port de signes religieux pour que tout le monde puisse travailler au Québec, peu importe ses croyances. » Or, évidemment, on le sait, ben, c'est pas parce que, en fait, des personnes de toutes les croyances peuvent travailler au Québec. La question, c'est le port de signes religieux pendant les heures travaillées. Donc, je pense que c'était très de mauvaise foi de dire ça de la part de Québec solidaire. Là.
Mais dans ton esprit, là, tu sais, il y a eu... Dans tout les discours et dans tout le débat plutôt là sur la loi 21, David, il y a eu toute cette question-là par rapport à tu sais les personnes en autorité là, tu sais en position d'autorité. Donc il y a eu tout le débat savoir si on rentrait les enseignants dans cette catégorie-là. Pour toi, est-ce que les enseignants là sont clairement en position d'autorité et vraiment là, la laïcité devrait s'appliquer à eux?
Ça m'apparaît une évidence qu'ils font partie d'une autorité. Et d'ailleurs, ils sont déjà reconnus par la loi comme une forme d'autorité. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de relations sexuelles entre un élève ou une élève et son enseignant-enseignante, ben on reconnaît déjà que c'est une personne en position d'autorité. Donc, le consentement ne serait pas reconnu comme valide de la part de l'élève, même s'il a 16 ans ou plus. Donc, la loi reconnaît déjà que c'est une personne en position d'autorité. Donc, moi, ça m'apparaît vraiment une évidence. Et d'ailleurs, toujours parlant de la loi, là, la loi sur l'instruction publique empêche les enseignants de porter des symboles politiques déjà. Donc, je vois pas pourquoi on devrait tolérer les symboles religieux. Ce serait de donner une espèce de passe-droit aux positions religieuses par rapport aux symboles politiques, là.
Mais est-ce que tu crois que vraiment, tu sais, que Québec solidaire dit qu'il veut fermer le débat sur ce dossier-là? Est-ce qu'il vient le réouvrir en voulant, comme ça, changer la loi 21? Est-ce que c'est purement stratégique? Est-ce que M. Nadeau-Dubois veut faire plaisir à sa base militante? On a vu dans leur dernier congrès, l'automne, le printemps qui vient tout juste de passer, qu'il était un peu rabroué par ses membres. Comment tu vois ce positionnement-là? Et au-delà de l'article dans la presse, on n'a pas vu ou entendu M. Nadeau-Dubois sur d'autres tribunes. Comment tu mets ça dans le que dans 90 jours, on est en campagne électorale au Québec?
Je pense que tu as tout à fait raison. Là, il essaie de si on veut, de fédérer l'opposition à la loi 21. Hein, donc, il essaie de se présenter vraiment comme, il l'a dit à plusieurs reprises, hein, comme l'opposition officielle à la CAQ, parce que c'est pas encore clair. Donc, le Parti libéral, qui est somme toute assez faible actuellement, aussi quand même un parti de pouvoir. On se doute bien qu'il va revenir à l'avant-plan, mais actuellement, il bat de l'aile un peu. Et donc, oui, il essaie de fédérer un peu l'opposition à la CAQ avec ça. Et oui, ça me fait plutôt rire de dire qu'il veut fermer le débat, c'est-à-dire qu'il va le réouvrir, le débat avec la loi 21, parce que on le sait, il y a une majorité de Québécois qui appuient la loi 21. Et j'ai envie de dire qu'en démocratie, les débats ne sont jamais clos. C'est-à-dire qu'on continue toujours de débattre, de discuter de certaines choses. En fait, ça m'inquiéterait plutôt qu'il y a certains sujets qu'on n'a pas le droit de parler, dont on n'a pas le droit de parler, en fait.
Oui, mais parlant, David, de sujets qu'on a le droit ou pas le droit de parler, présentement, le débat fait rage par rapport là, à l'utilisation du mot en haine qui était faite dans une chronique du côté de la radio de Radio-Canada. Et là, le CRTC se mêle du dossier, demande là, à Radio-Canada des, entre guillemets, des excuses ou de mieux encadrer l'utilisation du mot en haine. Mais ça nous amène également aussi à, encore une fois, nous porter une réflexion par rapport à la liberté d'expression à l'université. On sait que c'est un pan qui a été ouvert par le gouvernement Legault d'être capable de... Ils ont demandé à Alexandre Cloutier, ancien député ministre péquiste, de se pencher sur la question. On est la saison un peu en pause, même s'il y a souvent des cours d'été, donc la rentrée scolaire, là, autant dans les cégeps universités. Est-ce que le débat, justement, sur la liberté d'expression à l'université est réouvert un peu avec ce qui se passe au CRTC? Est-ce que ce qui était mis en place par le gouvernement, par le travail d'Alexandre Cloutier, c'est assez? Comment tu vois un peu ce travail-là? Parce que c'est un sujet qui était beaucoup dans le Canada anglais, la liberté d'expression sur les campus universitaires, mais qui s'est également transposé là, ici au Québec.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un débat qui fait rage. Tout à fait. Je pense qu'on rouvre ce débat-là. En fait, on le rouvre. Je suis peut-être pessimiste en ce sens-là, mais j'ai l'impression que tous les débats en lien avec la liberté d'expression aujourd'hui ont été perdus par les défenseurs de la liberté d'expression. Et je m'explique. Aujourd'hui, à l'université, je pense pas qu'il y a un enseignant, un professeur à l'université qui serait prêt à aborder l'essai de Pierre Vallière. Je pense à Samuel Paty en France. Je pense pas qu'il y ait aucun enseignant aujourd'hui qui est prêt à présenter des caricatures de Mahomet, même pour en parler du point de vue de la laïcité, de l'histoire des idées. Donc, tout ça, faire une pièce de théâtre, pour reprendre l'idée de Robert Lepage, qui ne représente que... on parlerait d'une autre race, entre guillemets, que nous-mêmes. Donc, je pense que tous les débats ont été perdus, pas nécessairement par des décisions institutionnelles, mais juste par la pression, par les pairs, par l'autocensure. Je pense que les gens vont s'autocensurer beaucoup, beaucoup actuellement. Ça ne va que continuer par la suite, là.
Mais est-ce que comment on fait justement pour l'encadrer à tes yeux là? Est-ce que le travail qui était fait par Alexandre Cloutier, est-ce qu'on est allé assez loin ou encore là le défi c'est d'aller en application? Est-ce que ça va être un sujet, tu penses, durant la prochaine élection durant la prochaine campagne là, justement la liberté d'expression sur les campus universitaires?
Ah, j'aimerais beaucoup ça. Je pense que ce qu'Alexandre Cloutier a fait, c'est très bien, mais en même temps, c'est insuffisant. Comme je le disais un peu tantôt, là, ça veut dire que la liberté d'expression, elle peut exister d'un point de vue juridique. D'ailleurs, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas la liberté d'expression d'un point de vue juridique ou très peu. C'est vraiment davantage d'un point de vue éthique, en quelque sorte. C'est-à-dire quelle voix ont une certaine légitimité pour parler à l'université. C'est vraiment ça la question. C'est pas est-ce que tu vas aller en prison ou non. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment quelle légitimité tu as avec ta voix. Et justement, tu sais, on parle de l'université, on parle d'espace sécuritaire, tout ça. Et je me posais la question, parce que moi, j'ai fait mes études en philosophie et j'ai entendu beaucoup de discours valoriser les violences politiques. Parler d'abolition de la police, par exemple, valoriser les manifestations politiques violentes. Et même en fin de semaine, donc je lisais un docteur en sociologie de l'Université de Montréal qui dit « Une autopatrouille qui brûle est une promesse. » Et je me demandais s'il n'y a pas quelque chose qui relève quand même de la valorisation de la violence politique avec ça. Et est-ce qu'on aurait à tolérer ce type de discours-là à l'université? Là?
Non, probablement pas. Et c'est ça le problème présentement, c'est que c'est des... Je pense que les deux côtés, hein, on veut... c'est parce que je pense que tout le monde est pour, tu sais, la liberté d'expression, mais quand ça les réconforte dans leurs propos à eux, hein. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un pense comme nous, ben oui, il faut qu'il soit libre parce qu'il faut qu'il s'exprime parce qu'il pense comme nous. Mais la liberté d'expression aussi, c'est d'accepter que d'autres personnes ne pensent pas comme nous. Et c'est ça le grand défi, tout ça dans un cadre, un sujet qui va faire encore beaucoup jaser, surtout également là, dans le contexte là, du CRTC. David Santarosa, un gros merci. On se retrouve demain matin.
Certainement, bye.
Bye-bye.